bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Merci Laetitia, rendez-vous à midi pour d'autres infos. Ravi de vous retrouver pour finir la semaine en beauté avec Leïla Kadamounadi.
Bonjour.
Daniel Morin.
Ah, bonjour Maggie.
Tom Villa.
Bonjour.
Guillermo. Ouais, Frédéric Sivis. Tout à l'heure, Tanguy Passureau et notre invité Thomas Armand.
Bravo. Ouais. Ouais.
Ouais. Salut les zozos.
C'est l'ami du matin.
Nous allons parler.
Oh, les zozos.
C'est pas possible. Jamais, en 5 ans, personne n'a osé démarrer une comme ça. Personne.
De toute façon, c'est soit les zozos, soit les loulous.
Non. Le 24 avril, mercredi, à l'affiche, donc, un premier film, celui d'Audrey Diwan, qui s'appelle Mais vous êtes fou. C'est, on pourrait qualifier ça d'une formidable histoire d'amour, entre Céline Salette, qui joue votre épouse, et vous. Ça peut être aussi une descente aux enfers. Ça peut être aussi, des choses, enfin une histoire comme il peut s'en dérouler beaucoup. Vous êtes dentiste dans le film, plutôt
prothésiste.
Plutôt, ah bon, d'accord, ok.
En tout cas, la formation que j'ai suivie, ouais. Assidûment, touchait plus au bridge qu'au ratiche.
Qu'au rami.
Un petit coup de cymbale, s'il vous plaît.
Ok, d'accord. Merci. Mauvaise vanne du matin.
Merci, ça commence fort.
On sait accueillir. Ouais.
Et donc, vous avez deux filles. Vous êtes un papa modèle parce que vous partagez entre votre travail et presque un côté
père
au foyer.
C'est un papa. En fait.
Oui, mais modèle, il fait la cuisine pour sa femme qui rentre plus tard et qui est crevée aussi. Il pourrait lui masser le dos pour la détendre. Il fait les devoirs, il donne le bain aux enfants. Bref, il est parfait pendant les 5 premières minutes. Même pas. Ouais. Et on se rend compte que vous êtes accro, vous prenez de la cocaïne, on ne sait pas à quel point d'ailleurs.
On comprend pourquoi il est parfait.
Pourquoi il est si précis.
Pourquoi il a autant d'énergie.
Ça,
faut le dire.
Et pire que tout, vous allez, sans le vouloir, refiler vos substances à vos enfants. Ce qu'on ne sait pas, c'est si en laissant traîner ou en nettoyant mal là où vous prenez de la cocaïne, votre fille ou vos filles sont en contact avec cette drogue. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'elle est prise de convulsions et que je pense même que c'est dans la bande-annonce, on accuse ce père d'avoir refilé de la drogue, consciemment ou inconsciemment en tout cas, et peut-être même d'avoir empoisonné sa fille.
Mais après, c'est aussi une machine juridique qui se met en place, une machine
légale.
Légale qui se met en place, ce qui est tout à fait légitime. C'est-à-dire que quand il y a une contamination sur un enfant, quel qu'il soit, en plus qu'il y a la cocaïne,
ouais.
La DAS retire les enfants.
Heureusement que l'État,
les services sociaux, protection de l'enfance,
gère un truc comme ça.
Et là, il y a toute une intrigue. On ne sait pas comment c'est arrivé. Comment c'est arrivé. On ne sait pas si votre épouse Céline Salette est complice ou pas de ce qui se passe. Et donc, c'est une véritable descente aux enfers. La première descente aux enfers pour votre personnage, c'est de prendre de la drogue. La deuxième, c'est d'être accusé de vouloir tuer ses enfants pratiquement.
Moi, c'est ce qui m'a, étonnamment, j'aime bien dire ça, mais c'est ce qui m'a un peu
saisi
dans le scénario.
Ouais. C'est-à-dire que il y a de quoi être saisi.
Il y a une telle accumulation de, au-delà de l'anecdote en soi, de la contamination par l'héroïne, mais il y a un truc à jouer plus que fort. C'est-à-dire que moi, je me suis dit quand j'ai eu le scénario, c'était pas gagné, quoi. C'était pas un film évident à faire. C'était un truc un peu sur le fil, quoi.
Ouais. Et puis en tant que spectateur, on ne sait pas d'ailleurs de quel côté on se situe. Ouais. On ne sait pas si
à la morale.
Oui.
C'est ça. Moi, ça j'aime aussi ça.
Si on a envie de le défendre, si on a envie de l'aider, si on a au contraire envie vraiment de retirer la garde des enfants en disant mais c'est un danger ce mec, il faut absolument pas que des enfants soient éduqués par ce genre de père. Et puis du point de vue de Céline Salette aussi, on dit mais est-elle jusqu'où ira son amour ou pas, est-elle envahie par le doute ou pas, est-elle complice ou pas. Donc il y a vraiment deux lectures dans le film, à la fois quelque chose de très social parce que c'est un reflet de notre société, et à la fois un véritable suspense presque d'intrigue policière.
Bah parce que je pense que c'était aussi une volonté d'Audrey Diwan, la metteuse en scène, c'est-à-dire d'avant tout de défendre une histoire d'amour, parce que c'est ça qui est le noyau du film, et en même temps de se confronter à différents genres aussi de cinéma, un peu aussi du thriller d'une certaine manière, et de défendre avant tout un peu d'humanité.
On va continuer à en parler en tout cas pour une première. Je sais pas ce qu'elle a fait cette demoiselle avant. Audrey Diwan, mais pour une première, c'est une réussite.
Elle a fait fort. Hein.
Ouais, vraiment, c'est super bien.
De toute façon, je l'ai quittée il y a 20 minutes. C'est très simple.
Tu la connais.
Elle a co-signé le scénario de La French avec Cédric Gimenez, de HHHH, l'adaptation du bouquin de Laurent Binet.
Donc, elle était plutôt scénariste que réalisatrice.
Oui.
D'accord. Très bien. Des questions concernant Pio Marmaille. Vous ne dites rien, vous ne dites rien, c'est autour de cette table qu'on va essayer de trouver la réponse. Pourquoi a-t-il rendu un jour à son papa un cadeau de Noël que son papa donc lui avait offert?
Parce qu'il lui avait déjà offert.
Que le Père Noël lui avait offert.
En double. Non. Il n'en voulait pas.
Il n'était pas bien. Non. C'était pas un bon cadeau.
C'était le premier dans la liste.
Parce qu'il n'avait pas été. Il trouvait qu'il ne méritait pas.
En tout cas, non, c'est un rapport au cadeau. Et c'est lui et le cadeau. Donc quelle est l'histoire entre Pio Marmaille et le cadeau? Non. Rien n'est trop cher pour Pio Marmaille. Non.
Parce qu'il l'avait déjà acheté avant qu'on lui offre.
Non, il l'ouvre, il le voit, il a le cadeau.
Parce qu'il l'aime pas.
Il dit je te le rends.
Il l'aime pas.
Il l'a pas dit tout de suite d'ailleurs, je te le rends. Il a attendu un ou deux jours.
Il l'a offert.
Non.
Est-ce que je peux vous aider parce que je sens que
c'est. Non.
Ciao, rendez-vous, ciao.
Son père lui a offert une moto, il avait 5 ans et demi, c'était trop tôt, il a dit rendez-vous dans 13 ans.
Non.
Il lui a rendu. Parce que c'était quelque chose auquel son père tenait énormément.
Cet objet à laquelle son père te dit. Bah oui, monsieur, excuse-moi, France Inter. Il était.
C'est un objet à laquelle
C'est une chose, toi t'as dit chose.
Un objet à laquelle son père tenait.
T'as dit chose.
Ah oui, moi j'en dis des choses.
Et qui se drogue autour de là?
Tout va bien.
Est-ce que. Non, on va dire, c'est un objet qui a eu un effet. Sur Pio Marmaille.
Ça lui a fait tellement plaisir qu'il n'a pas pu l'accepter, tellement il était heureux. C'est un rêve, il voulait le laisser.
Qui est ça?
Moi?
Ouais, Guillermo.
Ah bon
c'est quoi?
Ça lui a fait peur. On n'a pas entendu, c'est quoi?
Ça lui a fait peur.
Des cauchemars. Une statue africaine qui vous donnait des cauchemars.
Oui, c'est une statue qui a sans doute été volée dans un village par les conquérants, avec des petits des clous sur le visage de cette statue. Et j'ai dit à mon père, ne penses-tu pas que cette statue est bourrée de méfaits et de sorts maléfiques?
Mais quel âge? 4 ans, c'est ça?
Oui, c'est
non,
ça.
Ça arrive assez tard, parce que j'ai confondu avec une autre histoire où j'avais reçu un touché-coulé électronique. Et j'étais un peu snob. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai balancé le truc sur mes parents.
Vous étiez un enfant très agréable.
C'était le dernier cadeau, non? Il y a eu la statue africaine et le.
Le toucher coulé, c'était au dernier Noël en même temps, on peut le comprendre. Hein.
Voilà, mais c'est vrai que la statue, je me suis dit, merde, bon, bref, question suivante.
Qu'est-ce que Pio Marmaille possède en 6 exemplaires?
Des motos.
Oui,
oh là là, mais ça c'est
toi,
vraiment.
T'es allé chez lui. Oui, 6 motos de la même marque, du même cube.
Alors, maintenant que je suis
garagiste
et corporate, parce que maintenant je suis Yamaha for life. Hein, ça c'est ma. Je ne fais que le citer.
Vous avez peut-être votre portable.
Ça c'est le réveil.
Alors c'est votre réveil.
Non,
on est arrivé à l'heure. Voilà.
Heureusement que vous êtes levé avant.
C'est exactement ça. Oui, des motocyclettes, j'en ai eu un paquet, j'en aurai toujours.
Vous n'êtes pas Harley, vous n'êtes pas Suzuki, vous n'êtes pas Kawa.
J'étais Harley longtemps. Je suis surtout plaisir de vivre. et plaisir de se dépasser point A à point B.
Mais aujourd'hui, il y a quand même un discours entre le 2 temps et le 4 temps.
Ah, de toute façon, le 2 temps, le son c'est. Et le 400, c'est
ce qui est l'Harley. L'Harley est un 400.
L'Harley, c'est une chose très particulière. Mais
j'ai un contrat qui vous interdit de faire de la moto, de
citer des marques à la radio.
Si, je fais attention. Après, je roule moins maintenant, bon, bref, ça fait partie de ma vie, mon ADN.
Est-ce que vous n'avez pas d'interdiction contractuelle de faire de la moto quand vous êtes acteur et par sécurité?
Et le ski, après, je me suis fendu la jambe en deux.
Fendu
Fendu, ouais. Comme une figue. Comme la cicatrice, exactement.
Comme une petite figue sur le front de
Harry Potter.
Mon tibia était comme le front d'Harry Potter. C'est-à-dire que le ski s'est mis à l'envers. Il ne sait pas détacher.
Ouais. Ah.
Donc ça m'a refroidi, littéralement. J'ai plus jamais fait de ski, donc là, le ski, ça va. Mais la moto, c'est un peu le problème. J'en fais encore un peu.
Pourquoi Pio Marmaille aime-t-il s'arrêter sur les aires d'autoroute, qu'il soit à moto ou en voiture,
pour boire des cafés?
Pisser dehors.
Mais non, mais il y a que toi.
Avec moi, il faut penser simple. Il faut vraiment simple.
Pour discuter avec les routiers.
Tu n'es pas obligé d'aller sur l'autoroute pour faire pipi dehors.
Non, mais moi, c'est parce que je préfère au monde. Donc, je me dis.
Pour mettre son triangle.
Pardon.
Les sandwichs Dona.
Ah moi attends.
Les croque monsieur.
Ouais, c'est refusé.
En plus j'avais commencé par le mauvais café du truc, j'allais venir au sandwich.
Pour manger des sandwichs triangles.
Ouais, oui, c'est vrai.
Sur les aires d'autoroute, aux quatre pentes.
J'adore le Dona, le suédois,
ouais.
Le pain suédois.
Ouais, formidable.
Je ne pars pas sur un classique, sur un mezzé, jambon fromage.
Pas de mie,
je pars toujours sur un peu suédois.
Le suédois.
Avec du saumon dedans.
On est d'accord, on parle des sandwichs sous vide, sous cellophane.
Hors de prix. Et d'ailleurs, faut-il lancer un débat sur le tarif de ces sandwichs qui ne fait qu'augmenter? Je ne sais pas. En tous les cas, j'adore ces sandwichs. Et dès que je prends de l'essence, je prends toujours. Bon, hey, ciao.
Pio Marmaille a inventé le goûti viande. On va rester dans la nourriture.
Alors ça,
qu'est-ce que le goûti viande?
Un plat.
Non. Oui, enfin c'est un plat, mais
c'est de la viande avec un truc chelou dedans.
Non.
Il y a des bonbons dedans, du sucre mélangé, goûti viande. C'est une sorte de, c'est le goûter et on mange de la barbaque.
Exactement.
Bah ouais.
Alors, qu'est-ce que le goûti viande? C'est mon filleul qui a inventé cette. En fait, je mange très souvent des sandwichs vers 16h bourrés de viande.
De charcuterie.
On m'appelle la marmite.
Charcuterie, saucisson.
Ça fait une semaine que je fais la promo du film. Je ne fais que parler friture, accra, je ne sais pas. Bref. Donc, le goûti viande, c'est la rencontre du goûter et de la viande, c'est-à-dire un 16h. Agréable entre amis ou tout seul. Ouais. On se fait un petit steak haché, on le slice, on le snack, on est sur un plat de finale, on est sur un plat de qualification. Et derrière, je vais le bourrer d'accessoires, type fromage, fromage gras. En tous les cas, c'est un coup de boost. Question suivante, allez-y.
Non.
Moi, j'adore ça. Ouais.
C'est vrai.
Mais je fais un peu. Bah, attention,
En termes de digestion.
Ah, c'est des reflux gastriques. c'est infernal. Mais après, je me dis bon.
Je crois que vous n'êtes pas loin de la recette dont Gérard Depardieu nous a parlé à ce micro pour expliquer comment avoir des flatulences le plus possible sur un tournage.
Mais c'était panaché fromage blanc.
Ouais.
Café panaché fromage blanc.
Il avait une recette. Tu l'as retenue.
Fromage blanc, oignon et.
C'est ça.
Ouais. Pour faire des ventes compétition.
Ouais. Oui.
Non, moi je suis cornichon.
Cornichon, t'as raison. Cornichon.
C'est plus simple. C'est vraiment juste un snacking de
bonne viande.
De visage de porc.
Est-ce que vous faites attention à votre santé avec tout ce que vous faites?
Eh bien, figurez-vous que oui, quand même. et heureusement que je travaille parce que sinon je pense. Merci beaucoup. Je pense que y aurait un certain laisser-aller. Mais là, je fais extrêmement attention.
On va vous faire plaisir à votre sponsor puisque vous. Puisque vous êtes l'ambassadeur d'une marque.
Yamaha.
Charal.
Bah non. Ni Charal, ni Yamaha.
Les sandwichs.
Non.
Des vêtements?
Ça se mange pas.
C'est des vêtements?
Non. Bah non, ça se verrait.
Avec moi, il faut vraiment voir. Il faut voir vraiment.
Les chaussures, Vans?
Non. Non, il le porte pas. Non, le regarde pas comme ça. Il ne le porte pas sur lui, cette marque.
C'est pas des produits de beauté?
Ah bah non,
ça serait.
C'est pas des crèmes, c'est pas un rasoir non plus, c'est pas un peigne. Tu vois, regarde.
C'est pas genre la poste ou un truc comme ça.
La poste.
La poste, c'est chaud.
Tu parles pour son blouson bleu? Non, c'est pas ça. Non, il est ambassadeur, sponsorisé par une marque. Trop, un peu, presque mythique au cinéma.
Cigarettes, non.
Bah non.
Montre.
Non.
Des
au cinéma.
Mythique au cinéma. Mais non.
Stylo.
Quand je dis mythique au cinéma, c'est dans l'écran, pas dans la salle.
D'accord, ok. Moi aussi, je pense ça.
Magnum. Alors, au cinéma, à l'écran.
Les glaces. À l'écran.
Des voitures.
À l'écran. À l'écran.
C'est technologique.
Voiture.
Qui a dit voiture?
Moi, j'ai dit Aston Martin.
Ouais, voiture. Non, alors c'est pas Aston Martin.
C'est quoi?
À moins que ça ne soit plus le cas. Ford.
Ah non, mais ça, c'était jadis, quand j'étais encore dans le coup. Bob Cable. Ça fait des années que tout le monde m'a lâché. Hein. Je n'ai plus aucun. personne.
Non, moi j'ai pensé à la Ford Mustang de Louche ou de.
Jadis. Je fais attention aussi aux sponsors. Hein. Méfiez-vous parce que on a tendance à tout accepter à un moment et finalement on se retrouve en finale. Il me reste une Volvo. J'ai une Volvo Break.
On se retrouve en homme sandwich triangle, quoi.
Exactement. Non, moi j'en appelle aux généreux. Donnez-moi vraiment plutôt tout ce qui est nourriture, aux boissons sucrées, je prendrai. Après les véhicules, j'ai un peu abandonné.
Bon, parlons de ce film, donc sorti le 24 avril avec Céline Sallette et Pio Marmaille. Il faut faire attention à ce que l'on dit aussi, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une intrigue policière et en même temps un cas bien précis d'un père de famille qui se drogue et de son rapport à la drogue et des conséquences, des incidences que ça peut avoir sur sa famille, y compris en termes de santé, sur sa propre fille. Donc jusqu'où peut-on raconter ce qui se passe dans le film, Pio ? Je peux vous appeler Pio ?
On peut se. Non mais c'est un film assez particulier parce que quand on traite d'une histoire qui est réelle, d'individus qui vivent encore, c'est toujours très délicat. Il y a surtout sur un sujet aussi délicat, il y a un truc qui est un peu lié aussi à la morale quelque part. Où est-ce que je me place moi en tant qu'individu quand je joue le rôle d'un mec
Et le bien et le mal quoi aussi.
Ouais, c'est ça. Je pars du principe que j'ai jamais de jugement sur les personnages que je joue, que ce soit des nazis ou des bons. J'ai jamais joué Genesis. Mais c'est vrai que j'essaie de pas en avoir. Ce qui est un moteur, c'est ce truc où il y a une friction, quoi. Où ça n'est pas gagné et simple, quoi.
Alors, ce qui est encore une fois, il y a deux lectures dans ce film, à la fois l'addiction, et on en reparlera tout à l'heure avec notre invité, l'addiction aux drogues, et à la fois l'histoire d'amour, et surtout la rupture de la confiance qu'il peut y avoir au sein du couple. Est-ce que l'on peut reconstruire une histoire d'amour après qu'il y ait eu une rupture de confiance? D'ailleurs, dans le film, c'est une prise de drogue, ça pourrait être n'importe quel autre mensonge, une double vie, une tromperie, une jalousie, peu importe, mais là, l'originalité de ce film, c'est que c'est pas justement sur une infidélité sexuelle au couple, mais c'est sur une infidélité en prenant une drogue, une autre forme d'addiction.
Parce que je pense qu'Audrey Diwan, la metteuse en scène, elle est partie du principe que la cocaïne est considérée comme une maîtresse en fait dans ce film. Mmh. C'est qu'en fait, ça aurait pu être autre chose, une tromperie amoureuse.
Mais c'est comme une tromperie.
Ouais, c'est ça. C'est ça.
Sauf que ça va quand même, un peu plus loin, parce que c'est pas simplement l'existence d'une autre femme ou d'une rivale. C'est l'ère du soupçon s'installe dans le personnage de Céline Sallette parce que vous êtes potentiellement un risque pour les enfants. Ça va quand même un tout petit peu plus loin. C'est pas simplement une rivalité liée à son statut, elle, de femme.
C'est une mise en danger aussi.
Ouais, ça met en danger les enfants et elle vous voit comme un père aimant et en même temps comme un homme qui peut être un destructeur terrible.
Ouais. Ce qui est effectivement un peu plus que dur, c'est que une rupture pareille, je pense que je témoigne au nom des gens qui ont vécu ça quelque part. C'est que du jour au lendemain. Tu perds toute construction d'existence.
Parce qu'il y a ce côté mais en fait je te connais pas du tout quoi.
Oui, c'est ça. Mais moi-même quand j'ai lu le scénario, c'est vrai que je me suis dit mais comment c'est possible de passer à côté un tel déni. Même si j'ai pas de jugement moral, je me suis quand même posé la question de mais comment c'est possible de pas se rendre compte qu'il y a un truc comme ça. Après,
est-ce qu'elle veut le voir, est-ce qu'elle veut pas le voir, c'est aussi la question qui est posée. Mais en tout cas, Audrey Diwan, elle réussit un truc formidable dans ce film, c'est la création d'un couple. C'est-à-dire que à l'écran, avec Céline Sallette, il y a quelque chose d'hyper évident, d'hyper beau, d'hyper fort. Il y a une complicité qui est assez incroyable. Je sais pas comment vous l'avez vécu, ça, ce travail mené avec Céline Sallette, mais il y a quelque chose de, vous êtes spectaculairement beau ensemble. Déjà.
Mais ça, c'est dû à mon visage.
Oui.
Mais Guillermo n'ont jamais été aussi beaux.
Alors, c'est la lumière,
c'est aussi le
opérateur.
Les effets spéciaux.
C'est une énergie, c'est les statues africaines.
Le travail à la palette graphique, il y a beaucoup de choses.
C'est des gouttes viandes aussi.
C'est des gouttes viandes.
Beaucoup. Et puis, il y a ce côté. Ambianceur disque jockey.
Ah oui.
Ah bah, Benibi.
Dites-vous bien que hier soir, à l'avant-première.
À l'aube donc.
À l'aube, est venu. Benny Bi, je vous jure que c'est vrai.
Et personne ne l'a
reconnu. Qui est belge, c'est ça?
Qui est belge, oui, belge.
Il est belge, ouais. Benny Bi. Ouais.
Il n'a pas pris une ride.
Il en a pris toujours salopette.
Il en a pris 500.
Non, mais, c'est, mais est-ce, que, est-ce qu'elle dit, Céline, elle est un truc très juste. C'est-à-dire que les acteurs, c'est comme des, c'est vrai, c'est comme des chiens, en fait. On se renifle un peu, vite fait. En fait, très vite, on va savoir si ça fonctionne ou pas. C'est pas la peine non plus de tourner autour du pot. Non, mais c'est vrai, c'est quelque part, c'est, on s'évite.
Ah, l'image est forte.
Si ça va fonctionner, quoi. C'est comme une sorte de petit cercle.
Ah, ben, bah, je sais comment les chiens
de human centipède. Mais,
mais tout d'un coup, j'imagine le casting avec Céline Sallet.
Et donc, avec
Céline Sallet. Mais du coup, ça va être images. Ça va très vite, surtout que sur un film comme ça, où il y a besoin d'une disponibilité émotionnelle assez forte. On n'a pas le temps de, on n'a pas 5-6 jours à faire des scénettes à, autour d'une table avec, avec une salière. Là, c'est, enfin, j'ai toujours cet exemple en tête. C'est vrai que là, ça demande un truc coton, quoi. Et puis, il y a de la confiance. Et donc, il faut aller un peu à l'essentiel, quoi.
En tout cas, on croit au couple. Ah ouais. On y croit tellement qu'on prend parti, puisqu'il y a quand même un petit rapport, un petit bras de fer entre les deux. On se dit, je suis de son côté à elle, comme dans n'importe quelle crise de couple. Je suis de son côté à elle, je suis de son côté à lui. Si vous voulez vapoter, faites-le, mais pile devant le micro, parce que là, et on est.
Ça va être notre matinée, Pio.
Depuis le début, ouais. Ce sont des agressions, des griffons au visage.
Mais non, mais votre truc, là, Dark Vador, ça fait bizarre, voilà. Je suis pour ceux qui nous écoutent. Non, pour en revenir à Céline Sallet et à votre jeu, on se demande si l'amour va être plus fort.
Bah, je pense que c'est
l'intrigue
truc,
aussi.
Quoi. C'est
évidemment, c'est on s'inquiète pour la santé des enfants.
Mais non, on s'en fout, c'est pas le problème.
On pense aux enfants, mais il y a l'histoire d'amour. Quoi.
L'anecdote en soi de la prise de cocaïne et de la destruction du schéma familial, c'est une chose. Mais ce qui demeure, enfin ce qui reste le noyau du film, c'est quand même la relation humaine. Quoi. C'est ça qui fait un peu.
C'est une histoire vraie. C'est à partir d'une histoire vraie.
C'est une histoire vraie. Oui, c'est une histoire vraie. Oui,
vous avez rencontré l'homme que j'incarne
l'homme que j'incarne.
Michel Drucker. C'est Michel Drucker qui a tué son chien comme ça en caressant.
Puis là, je voulais pas le dire. Bon, bref. Ouais. Donc c'est Michel. Non, c'était. Moi, j'avais besoin en fait d'avoir une sorte de référence sur l'énergie de. Enfin, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est prendre autant de drogue dans une journée. Enfin, c'est très délicat. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc très abstrait.
Guillermo.
Non, parce que le personnage que vous incarnez dans le film le dit, c'est-à-dire il commence comme ça, c'est aussi ça qui est raconté, il commence à prendre de la drogue de façon festive et puis tout d'un coup il en a besoin au quotidien, dès qu'il a quelque chose d'important à faire il doit en prendre et il se retrouve à en prendre du matin au soir, parce que la première scène du film c'est vraiment ça, c'est comment il guette, il attend,
il est au téléphone avec quelqu'un, on sait pas qui c'est,
que son dealer en fait vienne lui livrer la marchandise, il en est là.
Ouais. Et c'est vrai que j'étais aussi curieux d'avoir des anecdotes, si tu veux, parce que à un moment sur les prises de drogue aussi fortes, il y a des phases d'hallucination et de craving, donc des crises de manque, des trucs qui sont assez indispensables au moins à savoir avant de tourner, parce que moi pendant tout le film, étonnamment, je me suis dit je vais être le plus clean possible de toute l'histoire de l'humanité. Je ne buvais que de l'eau un mois avant, et pendant tout le film, je buvais que de la flotte pour être le plus précis possible, comme si en fait ce qu'on recherche quand on prend la cocaïne, c'est enfin pour le moment c'est une sorte de tenue et de droiture, c'est ce que recherchait cette personne,
tenir le coup.
Ouais, c'est ça. Et c'est assez
c'est pas la droiture, c'est tenir le coup,
c'est la concentration,
exactement. Et du coup je me suis dit tiens, je
vous n'êtes pas allé jusqu'à faire de l'acteur studio en prenant de la cocaïne pour vous mettre dans l'état du héros qui prend la cocaïne?
Non,
parce que j'ai du talent, c'est ça.
C'est grâce à la lumière. Non, mais c'était un truc
C'était la réponse dans Marathon Man, c'est ça?
Oui, je joue.
Celui qui court et celui qui fait semblant d'être épuisé. Ouais. Moi, j'ai tendance à courir, mais là, pour Laurent, le coup, heureusement, j'ai pas couru, sinon je me serais foutu 12 grammes de croque dans le pif et j'aurais pas tenu.
Une histoire d'amour, une intrigue policière et en même temps une histoire vraie, parce que cette histoire-là a existé, peut exister autour de nous sans forcément qu'on s'en rende compte, et surtout extrêmement bien interprétée par Céline Sallet et Pio Marmaille. Mais vous êtes fou, le film d'Audrey Diwan qui sort au cinéma ce mercredi prochain, donc 24 avril. Et ça va être un succès, ce film.
Oui, ça sans le succès. Je rappelle le pitch pour ceux qui arrivent. Un couple, deux enfants, tout va bien, sauf que la petite dernière est prise de convulsions et est hospitalisée d'urgence. Ouais. Et après examen, on découvre des traces de cocaïne dans son corps. Manque de chance, la cocaïne provient du père qui en prenait en cachette sans que personne soit au courant. Donc là, il y a plusieurs options de chronique qui se déroulent. Soit on parle des papas qui prennent de la cocaïne, mais Nagui m'a demandé d'être très discret là-dessus. Et c'est vrai, t'as raison, ça se fait pas de balancer Daniel Morin.
Reste Daniel.
Soit on parle de la cocaïne chez les enfants de moins de 7 ans, soit on parle des secrets qu'on cache à son conjoint. On peut parler de la cocaïne chez les enfants de moins de 7 ans, mais bon, c'est tu fais pas une spéciale dans les maternelles. Pourquoi faire ? Une part de pizza, ils font des saltos arrière. Si tu leur mets un Disney derrière, ils crient comme des moutons à l'Aïd. Donc leur filer un rail de coke, c'est quand même un coup à faire un duplex avec le voisin du dessous parce que le gamin, il a pété le parquet de surplus d'énergie, c'est vrai. En revanche, les petits secrets dans les couples, ça c'est intéressant. Moi, par exemple, j'ai une petite passion secrète, bon, qui est pas assez secret très longtemps. Non, en fait, c'est que je suis un fan de basket. Ouais. Je suis un sneakers addict, comme on dit chez GQ. Un passionné de la godasse, comme on dit chez Paru Vendu. Et j'ai beaucoup de paires de baskets. J'ai une pièce qui est dédiée à mes baskets, que j'ai appelé le salon. J'ai un pote qui bosse chez Footlocker, il vient plus chez moi, ça lui rappelle trop le boulot. Non, mais je te jure, j'ai plus de paires que ma copine. Et d'ailleurs, je pense que j'ai plus de paires que vous tous réunis autour de la table. Peut-être pas Nagui, puisque toi, tu en as beaucoup. J'ai plus de paires bien, ça, c'est sûr. Mais non, on va pas commencer à se faire une guéguerre.
Je peux pas jouer au basket avec.
On va pas se faire une guéguerre, c'est trop con, on a la même passion. C'est comme les fans de l'OM, tu sais, qui espèrent que le PSG va se voter en Ligue des Champions. C'est bête. T'as envie de dire, vous aimez tous le foot, aimez-vous les uns les autres. Bon, Nagui et moi, sur les baskets, sur l'esthétique, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Ça doit être dû à sa femme de ménage aveugle qui lui achète sur Internet. Mais c'est pas grave. En tout cas, si jamais un jour la télé s'arrête et que t'ouvres un bowling, ça peut être formidable. Faut que tout le monde fasse du 43, mais c'est formidable. Donc.
C'est vrai. C'est la bonne taille en plus.
Mais je sais. Donc le petit secret dans les coupes, ça c'est ça qui est dangereux. Moi au début j'essaie de cacher ma passion à ma copine. Et d'ailleurs c'est con parce que quand tu te relèves la nuit, parce qu'il y a une mise en vente aux États-Unis à 21h, il est 3h du mat en France.
Tu fais ça toi.
Ça fait le mec qui a une maîtresse. Ouais, elle s'appelle Amazon et elle a pas de frais de port. Voilà. Non, et puis surtout, à chaque fois qu'on recevait un colis, pensait que c'était un cadeau pour elle, c'est chiant. Il y a plein de mecs comme ça qui ont des secrets. Quand tu lui fais croire que tu vas voir un match de foot chez un pote alors que tu vas chez ta maîtresse, ou pire, tu lui fais croire que tu vas chez un pote regarder le foot et tu vas vraiment chez un pote regarder le foot. Est-ce qu'il va pas être déçu après? C'est bien aussi d'avoir son petit jardin secret, mais bon, attention au retour de flamme parce que le jour où elle découvre que tu prends de la coke en regardant le foot chez ta maîtresse, ça va être très violent. Allez, bonne émission.
Merci Tom Villa.
Merci.
Pio Marmaille, le 24 avril au cinéma dans ce film d'Audrey Diwan. Comment on se laisse convaincre d'ailleurs de participer à une première parce que vous ne savez pas comment ça sera réalisé, éclairé, dirigé. Puis en même temps, on se dit c'est bien aussi d'être dans une première fois. J'imagine.
Bah oui, enfin, peut-être que c'est un truc aussi de génération. Enfin, dans ma génération, il y a peut-être un truc plus, où il y a beaucoup de tentatives. Quoi. Moi, j'adore ça. En tout cas, j'adore l'idée du geste, de la création. Après, il faut pas avoir peur de participer à quelque chose qui peut être complètement raté. Ça peut arriver, par exemple. C'est vrai que j'ai fait des
films de catastrophiques.
Non, pas forcément. Peut-être plus tard autour d'un Wings. Mais c'est un truc de confiance en fait. C'est aussi simple que ça. Il faut. Mais là, c'est vrai que c'est tellement sur la retenue ce film et sur l'économie de langue et en même temps ce truc émotionnel hyper fort. Qu'il faut absolument faire confiance. Parce que...
Et ce qui est fort, c'est le côté, encore une fois, intrigue et dénouement où on se demande si chaque fois on n'est pas arrivé à la conclusion. Oui. Et il y a des rebondissements, et il y a des twists, et il y a des surprises. Et jusqu'à la fin, elle réussit à nous tenir en haleine, Audrey Diwan, hein, dans sa manière de réaliser et d'écrire, parce qu'elle a co-écrit le scénario, on a dit, elle vient de l'écriture, et réaliser ce premier film avec vous et Céline Salette.
Mais vous êtes fous! Oh oui, mais vous êtes fous! Mais vous êtes fous! Oh oui, mais vous êtes fous!
Peut-être là, on peut avoir un soupçon dans son comportement de disque jockey en passant Mais vous êtes fou, qui prend des produits stupéfiants pour passer ce disque encore aujourd'hui.
Non, il a une bonne théorie, il dit que les Français aiment pas leur langue.
Ouais. C'est vrai.
Oui, qu'on fait pas attention au texte, en fait.
Ça n'est pas ma génération, parce que j'ai toujours su rester jeune, beaucoup plus jeune que nous. Le temps qui passe sur mon visage et sur mon corps. Mais c'est vrai que du coup, je connaissais pas trop Benebi. Fin de la réponse.
Voilà, fin de la réponse, on s'arrête là.
Continuez.
Mais vous êtes fous de passer de Benny B à Guillermo Guise en restant en Belgique. Il n'y a qu'un pas, voici Guillermo Guise.
Oh, absolument.
Ça va, Pio?
Ça va,
Pillot.
Salut.
Ah, ça va les amigos?
Ouais. Très bien.
Alors figurez-vous qu'hier matin, j'appelle le rédacteur en chef de l'émission, Jean-Marc Morandini, l'homme de l'ombre, l'homme de l'ombre, c'est comme on l'appelle ici et dans certaines institutions scolaires. Et je lui dis, Momo, mon Momo, je suppose que quelqu'un a déjà fait un billet sur la nouvelle espèce humaine qui a été découverte aux Philippines. Enfin, ah ben du coup.
C'est vrai.
Il me dit, toi, t'écoutes pas l'émission? Je dis, si, mais juste mes chroniques, quoi, en podcast, le reste, enfin, j'aime bien Leïla, mais bon, l'émission en soi, t'en as écouté une. Enfin, bref. Et je dis, et il me fait non. Il me fait non, en tout cas, il y a aucun chroniqueur qui a parlé d'une nouvelle espèce humaine. Je dis, t'es sérieux, même pas Tanguy Pastureau? Il me fait non, Tanguy, c'est bien les humains, enfin, il a rien contre le principe, tu vois, mais tu sais comment ils sont, hein, à la droite de la droite. Et là, je raccroche. Et je me dis, trop bien, je vais pouvoir parler. Je vais pouvoir parler d'Homo Lucentis, l'homme de Luzon. Vous savez bien, moi, les origines de l'homme, voilà, c'est le seul truc qui me reste depuis la fin de Greg le Millionnaire. Du coup, tu vois, je suis un peu. Et sur l'île de Luzon, aux Philippines, on a découvert, en fait, quelques fossiles appartenant à trois individus distincts, hein. Riri, Fifi
et Loulou.
Et Luc. Luc, on n'a pas réussi à dater sa mort, mais Riri et Fifi, oui. Fifi, il est mort il y a 67 000 ans et Riri, il est mort 17 000 ans plus tard. Genre, ils ne sont pas hyper bien connus, quoi. Ça s'est joué vraiment. Ils ont interrogé Fifi, ils lui ont fait, t'as pas connu un Riri, toi? Il vivait dans la même grotte que toi. Fifi, il a fait Riri, non, ça me dit rien. Mais si Riri a trapu comme ça. Non. Et ce qu'on a découvert à partir de ces ossements, c'est que ces individus, ils rentraient dans aucune espèce connue du genre homo, en fait, parce que anatomiquement, l'homme de Luzon, il est extrêmement chelou. Genre, à côté, tu vois Daniel Morin, tu dis, ça va encore, tu vois, franchement. Quoique, je serais paléanthropologue, je fais un petit détour par Radio France, quand même, tu vois. Notre Daniel, il a peut-être pas les pieds crochus, mais dans son ADN, il y a qu'à occuper un laboratoire, ça, je sais.
Reviens, Daniel.
En gros, on sait que l'homme de Luzon, il était probablement assez petit, parce que dans la grotte, ils ont trouvé un vélo à trois roues, alors que Sapiens, il se déplaçait qu'en mountain bike, temps en temps en BMX, tu vois, quand il voulait faire des figures. Mais, et on sait qu'il avait des pieds et les mains qui étaient aussi adaptés à la vie dans les arbres, en fait, alors que le genre humain semblait strictement bipède depuis 2 millions d'années sous l'impulsion du lobby du foot, hein, comme on sait, pour qui, soi-disant, le jeu à quatre pattes, il y avait moins de spectacles et tout, ouais. Ça faisait fuir les sponsors. Super, la bipédie, c'était pour jouer comme la France à la Coupe du Monde. Enfin, soit. Non, on ne va pas revenir là-dessus. Et donc, ces caractéristiques physiques bizarres, elles seraient liées au fait que l'homme de Luzon, il a suivi sa propre évolution à l'écart des autres espèces humaines, hein, isolé sur son île, en fait, voilà. Et que quand tu poursuis ton évolution tout seul dans ton coin, sans Sapiens, c'est Néandertal pour te juger et te faire, ouais, la honte, t'as vu, ils ont les pieds crochus, comment se trouve la honte, les pieds crochus, pieds crochus, pieds crochus. Eh bien, alors tu t'en fous de ton apparence, tu vois. Tu t'en fous, tu te dis, ouais, tu sais quoi, mon look, bon, ok, ça va peut-être pas plaire à Christina Cordula. En attendant, grimper aux arbres, c'est bien pratique quand tu veux manger un hibou. C'est vrai, hein. Et du coup, l'homme de Luzon, il bouscule un peu nos idées sur l'évolution humaine, quoi. C'est le bordel, le genre humain. On critique un peu le christianisme à cause que c'est pas chouette pour les enfants de cœur. En attendant, Adam et Ève, c'était plus simple, quoi. Ils nous ressemblaient, c'est vrai. Adam et Ève, tu leur mets des pattes d'Ève, c'est Stone et Chardin. Je te dis, franchement, on descend deux, point barre. Mais là, il y a plein de zones d'ombre. C'est pour ça qu'ils sont casse-couilles, les hommes préhistoriques. Qu'est-ce que ça te coûte de laisser une petite plaquette avec deux, trois impôts? Tu vois, genre, oui, voilà, je suis l'homme de Luzon. On est sur l'île depuis 2 millions d'années. Là, on attend Denis Brognard. Tu vois, ça fait gagner du temps à la science, quoi. Moi, si je meurs, genre, c'est quand je meurs, je veux que dans mon cercueil, il y ait des indications, tu vois, pour si on me retrouve dans 67 000 ans, tu vois, le truc de base, hein. Ernesto, Sapiens, faisait beaucoup de blagues sur sa bite, mais toujours dans un but didactique. Et c'est vrai, on pense jamais aux paléanthropologues qui m'ont dit qu'on vient encore dans 67 000 ans. C'est vrai, la preuve, c'est qu'on se fait tous incinérer. Si ça, c'est pas un gros fuck adressé aux scientifiques du futur, genre, vas-y, essaye de deviner si j'ai des grands pieds dans mon urne. Vraiment, tu vois. Et c'est ça que j'ai dit hier matin à Jean-Marc. Allez, bonne émission, les amis.
Merci, Guillermo, si tu veux.
Reviens t'installer, Daniel.
Insupportable cette journée.
Tu prends mal Guillermo, tout ce qu'on dit, tu prends mal, en fait.
Bah ouais, mais il y a un moment, faut dire stop.
D'accord.
On n'est pas à l'abri que Fred maintenant te fasse dégager.
Ah non, s'il fait ça, je m'en vais définitivement. Ah non, mais t'es prévenu.
Vas-y Fred, s'il te plaît. Parlons musique et ce que vous écoutiez par exemple en 2006.
Ah ouais,
alors entre le DJ là. Expose and girl, you got it just out, but you know we're soft, cause girl, you're impressed out. And if it is out of me, if it is out, cause I got the remedy for make it stress out. Me have a flat in me, cause me God bless out. And girl, if you want it, you have a confess out. Ça va nous donner du soleil forcément pour tout le week-end, hein.
Alors j'ai rarement vécu un flop aussi fort qu'on vient de vivre actuellement.
Sean Paul,
Température, qui est quand même censé faire péter la mayonnaise.
Pourquoi j'écoutais cette musique c'était quoi, c'était quand même
2006. Vous confondez la quincaillerie moderne.
Ah oui,
la compagnie théâtrale.
Un collectif de gens quand j'ai fait l'école de Saint.
Allez, on l'a fait. Trois. Ok, les gars, c'est bien.
Non, mais tous les mots sont là, mais dans le désordre. On y va, on les reprend tous et on les jette.
3-4.
2006, je cofonds la quincaillerie moderne. Donc ce collectif de plasticiens et d'acteurs et de scénographe et de metteur en scène.
Donc il y a tous les arts qui sont présents, sculpteur,
ouais.
peintre,
ouais, un peu tout, ouais.
comédien, ouais. réalisateur, metteur en scène.
En sortant d'école de Saint-Étienne.
D'accord.
Et alors je vous le dis tout de suite, ma sélection musicale va être une sorte de
moment de solitude.
Non, mais il faut vraiment se baser sur les titres. C'est-à-dire que ça racontera des moments, des trucs émotionnels très forts. Ah. Donc c'est-à-dire
que température.
À ce moment-là, il faisait sans doute très chaud, et je me suis dit tiens, quoi de mieux que cette chanson de Sean Paul. Non mais je ne sais pas, j'écoute un peu ça. J'étais jeune, dynamique, et Sean Paul était, me semble-t-il, un bon représentant de mon état d'esprit.
De quel genre de théâtre vous aviez envie justement? Alors, théâtre expérimental, celui...
Ça n'était que de l'expérimental, et je vais vous dire un truc qui est très juste. En fait, on faisait des spectacles toutes les semaines, on faisait des chroniques dans un théâtre à Saint-Étienne, et ça traitait d'un despote qui avait pris le pouvoir avant le macronisme, qui était incarné.
Brigitte.
C'est assez mesuré.
C'était incarné par un cochon d'Inde. Qui arrivait sur scène dans une on avait une petite voiturette, et il était dans une petite cage en plexiglas. Ça va pas faire plaisir à L251, mais l'animal est décédé à la dernière, en fait, parce qu'à chaque fois il y avait des groupes musicaux qui jouaient assez fort, souvent du hardcore d'ailleurs en général. Et c'est vrai que je sais plus, il s'appelait Edouard Mill ou je ne sais plus quoi, et il est décédé sur scène. Putain, j'ai déconné, j'aurais pas dû le dire. Et donc le despote est décédé. Fin d'anecdote.
Le moment de tristesse.
L214, j'ai dit quoi?
251.
Ouais, je pensais au pastis, un truc comme ça.
Mais très puissant.
C'est les gouttes que tu prends.
T'en mets dans ta Yamaha, ça part très
vite. Je te jure que c'est prêt. C'était assez fou, quoi.
Il prend pas un 51, il prend un 251.
Ah bah, d'ailleurs, en même temps, il est 18h. On peut y aller.
En 2008, vous écoutiez.
Oh, yes,
bien sûr.
Cindy Sander.
Ouais. Elle a pas fait Taratata.
Non, puis alors elle le fera jamais.
Vous n'étiez pas agent.
Oh, comment t'es arrivé?
Je suis sectaire.
Elle a disparu trop vite. Hein.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Pourquoi Papillon de Lumière? Donc ça évoque quelque chose dans votre
vie. Ça évoque sans doute une bascule dans ma carrière, sans doute. Ouais. Parce que j'ai travaillé avec je ne sais plus qui. Mais
avec Rémi Besançon, c'est le premier jour du reste de ta vie.
C'est génial ce film. Superbe. Génial.
C'est vrai. Et ça, par exemple, c'est marrant parce que je n'avais pas calculé le. Enfin, je ne m'étais pas rendu compte de l'impact qu'allait avoir ce film.
Pour parler du premier jour du reste de ta vie, vous auriez pu prendre Étienne Dao, parce que le titre du film.
J'ai préféré Cindy Sander,
c'est le papillon qui sort de la chrysalide.
Mais là, je comprends pas le papillon. C'est le papillon de lumière, je comprends pas.
C'est son choix.
C'est la mutation.
C'est la chrysalide qui
est là. C'est la mutation,
même lui, il savait pas.
Mais si, moi, quand je vois quelqu'un en difficulté, j'aime bien tendre la main.
Il est 22h30, on l'aide.
En tout cas, c'est un rôle qui vous vaut une nomination au César.
Et une fois de plus, je l'ai pas eu. De toute façon, à chaque fois, je me fais baiser. Ouais, c'est vraiment, c'est systématique.
Ça va venir, moi je suis hyper confiante.
Ma voyante a dit à mes 37 ans.
Et dit,
vous allez voir, 37-38 ans, c'est là que ça va exploser.
Bientôt.
Avec ce que je lui file comme blé, j'espère que ça va le faire.
Bientôt, en tout cas, ça a tissé un lien avec vous et Rémi Besançon.
Oui.
Puisque ensuite, vous avez remis le couvert dans Un Heureux Événement, dans Nos Futurs. C'est un des réalisateurs avec lequel vous avez le plus tourné, je crois.
Oui, c'est le réalisateur avec qui j'ai le plus tourné. Et en fait, j'ai tendance à oublier parce qu'à un moment, on rentre dans une espèce de logique, de film, d'accumulation, de trucs, d'expérience, et on se dit tout est normal, quoi. Et en fait, ça n'est pas profondément normal. En fait, c'est juste que s'il n'y avait pas eu Rémi Besançon, j'aurais pas travaillé dans le cinéma. C'est un mec qui m'a fait confiance à un moment où il lui a dit. Il y avait une logique de film où il y avait déjà assez de vedettes pour que ça fonctionne, pour que ça soit monté. Et c'est un des rares mecs qui a dit plutôt que de prendre quelqu'un qu'on connaît déjà, je vais aller vers un inconnu, quoi. Et c'est très heureux. Mais enfin, moi, j'ai toujours eu le cul bordé nouilles, mais c'est
alors,
là que là.
Et là, on se sent quoi? On se sent redevable ou...
Ah non, moi, j'avais un mépris total pour le cinéma. À ce moment-là, je sortais d'école de.
Non, je parle vis-à-vis de Rémi. On se sent redevable quand on vous tend comme ça la main et on vous donne la chance qui fait basculer votre vie.
Je pense que c'est un échange aussi. Hein. C'est pas redevable. Ce serait pénible parce que du coup, ça induirait une relation, je pense, dans le travail
unilatérale.
Ouais, un peu pénible qui n'est pas nécessaire. Un truc où il aurait un petit martinet.
Donc avec votre travail, arrêtez, ça me rend fou. Vous avec votre travail, en fait, vous ne l'avez pas déçu. Ça met une pression supplémentaire à ce moment-là de ne pas décevoir celui qui vous attend.
Et c'est surtout, c'est lié aussi à la relation amicale. En fait, c'est moi, j'aime bien. Travailler en fait au, sur le long terme avec des metteurs en scène, ce que je fais aujourd'hui avec Salvador aussi. Mais du coup, dès qu'il y a une relation amicale, ça me met plus de pression. C'est étonnant. Mais
est-ce que par exemple, le genre de pression, si vous avez deux projets qui arrivent en même temps, en termes de date de tournage et de travail, et qu'il y en a un qui est porté par Rémi Besançon et un autre par...
Je choisirais Besançon.
Quoi qu'il.
Ouais, ouais.
Il gagnera le match, quoi qu'il.
Si, alors, sauf si je joue un hallebardier qui prend une flèche.
Nazi.
Hallebardier nazi.
C'est le plus sournois, ça.
Quoi de mieux qu'un bon hallebardier nazi
inventeur du goutti viande. Ouais,
c'est ça, ouais. Avec un goutti viande. Ouais, avec un goutti viande. En 2008, Pio, vous écoutiez. 2014, pardon.
Oui,
2014. Happy.
Très en avance.
Il avait la maquette.
Il est minuit et demi.
On est bien là.
2014, donc là, happy, parce que heureux, j'imagine.
Ouais.
Bien vu, ouais. Bien enfin, vu. Là, je pense que...
Ouais, non, mais j'essaie de trouver un...
Happy meal, 16h30, un jouet, un petit fiche.
Un sandwich.
J'avoue, Pio.
2014, c'était quoi déjà?
Ah,
c'était...
c'est dans la cour de Salvadori, justement.
Ah ouais, c'était super.
Avec Catherine Deneuve, Gustave Carven, de quoi
grosse,
être très
gros surpoids
ouais.
physique, laissé aller total, beaucoup de pizza.
Pourquoi non?
Un gros moment de chômage juste avant.
Vous faites un peu yo-yo au niveau du poids et...
Ah, je n'arrête pas. Ma vie n'est qu'un yo-yo infernal qui n'en finit plus.
Mais vous pardon.
Quand je ne travaille pas, je mange beaucoup de pizza.
Vous prenez des kilos, vous les perdez en fonction des rôles que l'on vous donne. C'est-à-dire vous voulez...
Non, mais ça, c'est une sorte d'excuse. À un moment, il faut arrêter de s'imaginer des trucs. Oui, les acteurs qui vous disent je prends 10 kilos ou j'en perds.
Ah, bah, c'est la plus belle, c'était Cadmérade cette semaine qui nous a dit j'ai pris 15 kilos pour le film. Non.
Bah, il les a pas rendus, c'est normal.
Mais là.
Sur les trucs très précis, oui. Mais
là, c'est quoi? C'est que vous dites une période de chômage, donc pas de film juste avant, pas de projet suffisamment enthousiasmant.
Je pense que c'était. En fait, dans la course, c'est un peu une bascule parce que c'est la première fois que je bossais avec Pierre. Et puis, je sais pas, il y avait un truc. C'était un rôle très court, mais qui demandait beaucoup d'investissement. Et bon, après, ça a mené en liberté, tout ça. Et. Je sais pas comment dire. Je sais pas. C'est un truc où je me suis dit tiens, là on bascule dans quelque chose d'autre, dans la mise en scène, dans les propositions. Je n'ai jamais écouté cette musique, selon Franck. Mais en tout cas, je me suis dit, dans le titre, je suis heureux.
Et heureux de quoi? De croiser le fer avec Catherine Deneuve.
Putain, c'est super.
Ça oui.
Ouais, Catherine Deneuve, c'est quand même quelque chose.
Et puis la même année, il y a Isabelle Huppert aussi. Vous êtes à l'affiche de la Ritournelle.
Ouais, c'est
donc
vrai.
Ça fait quand même Catherine Deneuve, Isabelle Huppert en 2014.
Ça va.
Oui.
Ça va, il manquait Sydney Sanders que j'ai cité juste avant.
Ça, c'est une question de temps. Bon. Hein, ça, on peut te l'arranger. Hein, ça, y a pas de
Est-ce qu'on dort bizarrement la veille de la première scène où on sait qu'on va croiser une légende du cinéma, que ce soit Isabelle Huppert ou Catherine Deneuve? Est-ce qu'on se dit c'est normal? Est-ce qu'on n'a pas ce sentiment un peu d'être usurpateur en disant
non parce que je pense qu'il faut justement il faut avoir un rapport assez simple parce que sinon on rentre dans la même logique ces gens-là sont habitués, c'est-à-dire que
vous pouvez pas effacer tout le
non mais après
c'est
excitant
la filmographie
il vaut mieux être excité plutôt que impressionné dans le mauvais sens sinon ça peut être un frein quoi dans les propositions mais non c'était rigolo quoi parce qu'en plus il y a un truc de moi, j'essaie un truc un peu spontané de générosité, de dire voilà, on va mettre un peu la barre là et puis on va se surprendre un peu.
Et qu'avez-vous retenu alors d'échanger des scènes avec ces actrices?
Ben, c'est quand même une grande maîtrise, hein, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que elles sont pas là depuis 40 ans par hasard.
Ouais.
C'est-à-dire que tu te dis quand même.
Il y a quand même quelque chose, c'est ça.
Ouais, c'est-à-dire que quand même, quoi qu'on dise, il y a quand même y a quelque chose de fort. Ouais.
Et dans leur rapport, justement, aux autres acteurs, aux autres comédiens, elles sont aussi là, en écoute, en partage.
Oui, je pense. De toute façon, c'est un truc collectif, hein, le cinéma, tout ça, c'est un truc qui fonctionne en équipe. Tout seul, j'ai toujours été le meilleur du monde dans ma salle de bain, le matin, comme tout le monde. Mais c'est vrai que ça demande une générosité, quoi, un partage. J'ai l'impression que j'ai beaucoup dit le mot générosité depuis le
début. Non, mais c'est bien, bienveillant.
C'est un peu vous, ça.
C'est un mot complètement
utilisé. C'est sympa et intéressant.
Voilà. Pour moi, c'est vraiment le petit bouquet de mots qu'il faut.
J'aime bien dire bonne intelligence.
C'est bien le. Puis partage aussi. Mais partage également avec Céline Salette aussi, belle et grande comédienne. Dans Mais vous êtes fou, ce film sortira ce 24 avril, mercredi prochain, réalisé par Audrey Diwan, avec vous, Pio Marmaille, et avec donc en toile de fond, j'ai dit l'histoire d'amour, mais aussi l'histoire de la drogue et de la dépendance. Et c'est pour ça que nous recevons Laurent Carilla. Bonjour.
Bonjour.
Laurent. Vous êtes
bonjour,
psychiatre. Addict.
Oui. Bonjour Laurent.
Oui, prenez son Laurent. Numéro de portable bonjour. Après. C'est un psy, donc ça peut toujours être utile ici.
Il faut dire de quoi vous souffrez aussi, quand vous dites bonjour Laurent.
C'est vrai ?
Ouais, bonjour Laurent, je suis.
Mais si on vient vous voir, c'est qu'on ne sait pas de quoi on souffre. Vous êtes à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Vous êtes porte-parole de l'association SOS Addiction et vous avez publié Idées reçues sur l'addiction à l'alcool. Comprendre et sortir de la dépendance aux éditions Le Cavalier Bleu. Alors justement, comment déjà définir une addiction ? Qu'est-ce qui est une grosse consommation et comment on passe à l'addiction ?
Non, maintenant, moi, l'addiction, je la définis avec un moyen mnémotechnique, en fait. En 5C, la 5 fois la lettre C. Le premier C, c'est... non, c'est la perte de contrôle, le premier C. Le deuxième C, c'est l'activité compulsive. C'est on s'arrête, on est compulsif, quoi. Après, c'est le craving, c'est un mot anglais qui veut dire l'envie à crever de consommer. On peut pas s'empêcher. C'est-à-dire que ça tourne en boucle dans la tête. Et les deux autres C, c'est une activité continue et des conséquences sur la santé. Donc, à partir du moment quand on retrouve ces 5 C en soi, où l'entourage nous dit voilà, il y a ça, là, on est dans un phénomène addictif. Il faut qu'il y ait au moins un an d'évolution, à peu près.
Un an d'évolution, c'est-à-dire que en moins d'un an, on peut se dire, on peut décrocher de tout produit, que ce soit l'alcool, la cocaïne, ouais, l'héroïne, que sais-je.
L'addiction, c'est une maladie où on souffre, en fait. On consomme pour ne pas souffrir. Donc, ceux qui peuvent, ça arrive qu'il y a des gens qui consomment de la cocaïne comme ça de temps en temps, un week-end, etc. Et après,
ton micro est ouvert. Mais...
On n'est pas dans un phénomène d'addiction, on est dans un autre problème, en fait. Voilà. C'est ça la distinction.
C'est quel problème du coup alors ?
Parce qu'il a déjà 4 C sur 5.
Bah, consommer de manière ponctuelle, il y a ce côté récréatif, il y a ce côté festif, mais il y a aussi tout le côté risqué en fait. C'est-à-dire que avec ces produits-là,
on peut pas contrôler. On peut pas se dire parce que ceux qui prétendent non, je ne prends de tel produit que pour mon plaisir. Je maîtrise très bien.
C'est pipeau tout ça.
Ça c'est pipeau.
Ouais, c'est pipeau. On gère rien du tout en fait. La cocaïne c'est le meilleur exemple. C'est la drogue la plus sournoise qui existe. C'est-à-dire que on a l'impression avec ce côté stimulant que ça va être euphorisant, que ça va être génial, etc. Ouais. C'est vrai au départ puisqu'on va en reprendre. Mais le problème c'est qu'on gère rien du tout.
Donc la phrase qui dit on en prend une fois, on tombe forcément dedans.
Non, ça c'est une idée reçue.
Ah.
Ouais, ça c'est pas vrai parce que ça dépend de la vulnérabilité des gens. Personne n'est égal devant une substance.
Ouais, mais personne ne sait à quel point il va pouvoir se contrôler.
Mais on peut pas dire ouais parce qu'il y avait cette idée là il y a quelques années qui disait si tu fumes du crack une fois t'es cuit. Bon, il faut pas fumer de crack, mais c'est pas vrai.
Il faut donner sa chance au produit quand même.
Ouais, mais c'est une organisation, il faut une bip.
Est-ce que tous ces produits, j'ai presque envie de mettre le sucre
là-dedans. Vous avez raison.
Au même titre que la cocaïne, au même titre que.
Moi, j'ai les 5 C.
Enfin, un rail de sucre.
C'est vrai.
Pour les, le sucre,
j'ai
les
5 C. Vous viendrez me voir en consulte.
Sur le sucre.
Ah ouais, c'est sûr.
Tous ces produits-là, quel est leur point commun pour nous rendre dépendants d'eux?
Bah, ça active des circuits dans le cerveau et ça va les dérégler.
Donc
en
c'est
fait.
Chimique, c'est point commun,
c'est biologique et psychologique et environnemental finalement, parce que le sucre, il y en a partout dans notre environnement. C'est-à-dire que si vous voulez, quand vous mangez, vous buvez ou vous faites l'amour, ça vous fait plaisir à la base.
Ça m'arrive, mais bon, j'ai des fins de mois difficiles.
La blague de Daron, quoi.
Et donc, bon, disons, voilà, chacune de ces étapes-là, c'est vous mangez, ça vous fait plaisir quand vous avez faim. Vous buvez, pas d'alcool. Vous buvez quand vous avez soif, ça vous fait plaisir. Vous faites l'amour quand vous pouvez le faire, ça vous fait plaisir.
Oui.
Vous êtes d'accord ?
C'est bien d'accord. Je vous suis.
Donc ça va activer 4 circuits dans le cerveau. Ça va activer un circuit de la récompense. La récompense, c'est le truc basique animal qu'on a, c'est j'ai faim, je mange. Ça va activer un autre circuit qui est la mémoire et l'apprentissage, c'est depuis que je suis petit, je sais que il faut faire ça. Ça va activer un autre circuit qui s'appelle la motivation, je change de comportement avec des informations, et le dernier c'est je contrôle tout. C'est-à-dire que quand vous avez faim, vous n'allez pas vous mettre à poil dans votre cuisine et dévaliser tout le frigo.
Ah, vous connaissez mal Nagui.
Enfin bon, voilà. Mais vous m'intéressez tout ça, quand même.
Ah oui, non, mais il y a de quoi faire ici.
Et donc, les drogues, le sucre, les comportements l'alcool, comme le sexe, l'alcool, les achats, même le travail, ça peut dérégler ces circuits-là.
Donc vous mettez le sexe dans la catégorie drogue.
Bien sûr.
Et le travail aussi.
Bien sûr.
Et le sexe au travail ?
Oui, pardon. Non. Hein non, non, non. Et bonne question dans le public. Le sport, c'est-à-dire
le sport aussi, l'activité physique aussi.
On sécrète une espèce d'endomorphine qui fait que si on ne fait plus de sport, on est en manque.
Bah, ça va dérégler. En fait, voilà, quand on est addict, en fait, ces quatre circuits ne fonctionnent plus ensemble. Donc, quand on est addict, il y a récompense, mémoire d'un côté, la motivation isolée, donc on n'a plus de motivation pour rien. Pour changer en tout cas, et le contrôle ne marche plus, donc on perd le contrôle.
Mais on est forcément addict à quelque chose dans tout le panel que vous avez donné.
Non, on n'est pas addict, c'est je souffre. D'accord. Si vous souffrez avec un truc, vous utilisez le truc pour ne plus souffrir, oui.
Donc addict, c'est pas j'ai besoin de
non,
ça.
Non,
pour...
c'est pas je suis addict au sushi, je suis addict à toi, etc. etc. C'est
Je souffre si je ne l'ai pas.
Ouais, c'est non. Je l'utilise, je souffre.
Si je ne l'ai pas.
Non, oui, c'est, je souffre si je ne l'ai pas, mais je souffre, j'utilise cette substance, j'utilise ce comportement pour pas souffrir. Et ça fonctionne pas.
D'accord. Dans le film avec Pio Marmaille, ouais. dont on parle aujourd'hui, ce monsieur qui a tout pour réussir, ouais. La condition sociale, la famille.
Mais c'est une histoire lambda.
C'est vrai?
Ouais, c'est lambda.
Pourquoi?
Moi, c'est les patients que je vois, c'est. Il y a toutes les classes sociales. Donc dans le film, mais le film est très très bien fait sur cette consommation un peu cachée finalement de cocaïne.
Ah oui, totalement.
Hein, et complètement masquée. On voit bien. On voit juste les conséquences. On voit pas le
pourquoi.
On voit pas la maladie.
On voit pas le pourquoi.
Ouais, on voit pas la maladie. On voit pas le suivi. On voit pas tout ça. On voit les conséquences et qui sont assez
dramatiques.
Ouais. Il faut voir ce. C'est un beau témoignage. Ça, c'est les patients qu'on voit maintenant.
C'est-à-dire ils sont dans un niveau
ils ont un job
en social ouais, c'est
ouais
ça.
Ils ont ouais. un job une femme voilà la coke avant c'était jet set milieu doré etc maintenant c'est terminé
et
c'est,
les femmes se
c'est
pas
monsieur tout le monde si les femmes se droguent et on voit enfin il y a plus la balance c'est plus les hommes que les femmes mais les femmes rattrapent les hommes partout en fait
mais alors juste pour revenir au fait de se cacher est-ce que ça fait partie aussi de la drogue c'est quelque chose que l'on fait à part peut-être l'alcool ou Coluche disait le problème c'est qu'il y a un dealer à chaque coin de rue en parlant des bistrots des cafés qui sont des tentations pour ceux qui sont vraiment alcooliques c'est-à-dire malades de l'alcool mais le fait de se cacher pour se droguer fait partie comment dirais-je de presque un peu de la mise en scène de c'est quelque chose à ne pas montrer, à ne pas partager.
C'est l'interdit, ouais.
C'est une histoire assez classique parce que là, c'est un couple, ils ont tous les deux un job, il y a deux enfants, ils ont un appart, tout a l'air de tout fonctionner.
Mais il fait pas de prosélytisme, il cherche pas à convaincre sa femme de prendre de la drogue.
Non, pas du tout.
Or, il y a beaucoup de drogués qui font du prosélytisme et qui disent aux autres, vas-y, prends.
Ouais, bien sûr, vous avez raison. Mais c'est souvent ces situations-là, quand même. Dans le couple, il y a quelqu'un qui consomme de manière cachée. On voit par exemple là, il y a un gros problème des femmes avec l'alcool. Les femmes consomment de manière cachée de l'alcool, avec des stratégies pour cacher les petites bouteilles, etc. Et même, c'est pas si évident que ça au départ de repérer un processus addictif comme ça.
Est-ce qu'il y a des addictions plus dangereuses que d'autres ? Il y a un degré de dangerosité dans la drogue.
Vous voulez dire pour les substances ?
Pour la vie, simplement, pour la santé de la personne qui...
L'addiction, c'est une maladie. L'addiction, c'est une maladie qui ne concerne pas que la substance et les comportements. L'addiction, c'est une maladie qui concerne la personne, sa génétique, son environnement. Il y a plein de choses. Donc, personne n'est égal devant. Par exemple, il y a des gens qui vont... consommer du tabac, parce que c'est la pire substance addictive quand même, le tabac, et ils vont consommer du tabac et ils vont déclencher des maladies graves, vous voyez. Donc, en puissance addictogène, si vous voulez, les trois drogues, moi j'utilise toujours ce moyen mnémotechnique, j'aime bien les moyens mnémotechniques finalement, c'est THC.
Vous êtes addict aux
moyens mnémotechniques. Ouais, j'aime bien ça.
Que vous souffrez si vous n'utilisez pas un moyen mnémotechnique.
Je crois que oui, depuis que vous me le dites. Ouais.
Alors c'était
THC, tabac, héroïne et opiacés, et médicaments opioïdes, et la cocaïne. C'est les trois drogues les plus addictives.
D'accord.
Après, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas addictives.
Et là, vous avez viré le sucre, hein, parce que...
Ouais, non, je vous parle en substance.
Est-ce que vous aviez vu ce document, ce test en laboratoire fait par un médecin, je crois, de Toulouse, avec des souris ou un rat de laboratoire?
C'est à Bordeaux, ouais.
À Bordeaux,
ouais, ouais.
Qui avait à choisir entre la cocaïne et le sucre.
Le sucre est plus addictif que la cocaïne.
C'est fou.
Ouais, c'est fou.
Non, mais c'est totalement dingue.
Alors qu'il y en a
partout.
Ça dérègle le plaisir.
D'accord. J'ai vu ça 8 fois plus addictif que la cocaïne.
Addictif,
T'es Pierre Palma, des diabétiques, je crois.
C'est assez infernal. Et juste une question pour les parents.
Oui.
Comment protéger ces enfants là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le film, mais comment éduquer ces enfants par rapport à la drogue, avec ce que vous avez dit tout à l'heure, en se disant, allez, une fois, c'est pas grave, si on en prend une fois, on tombe pas dedans.
Le premier message à donner, que les parents doivent donner aux enfants, et qu'on doit donner aux parents aussi, c'est plus on consomme tôt quelque chose, plus il y a un risque. Et comme on peut pas prédire ce risque, c'est risqué. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le cerveau, notre cerveau devient mature, il finit sa puberté vers 20-25 ans. C'est-à-dire que si vous apportez plein de choses exogènes, inhabituelles au cerveau, c'est risqué. Et moi, le premier message que je donne à toute la France, c'est ne filez pas des gouttes d'alcool à vos enfants, ça sert à rien, ils ont tout le temps de goûter à l'alcool à un moment donné.
Le côté faire goûter un verre de vin pour faire rire lors d'une repas de famille et
ça à la fin d'un baptême, du marbisva, tiens, goûte un autre truc, c'est pareil que si vous leur filiez une petite ligne de cocaïne.
Et la drogue sera toujours plus forte que nous.
Ah ouais,
on peut jamais la maîtriser.
Un cerveau non mature va prendre des claques quand on consomme des substances.
Merci Laurent Carilla d'être venu à ce micro, et à propos de cerveau non mature, voici Tanguy. Bonjour Tanguy.
Allez, boum.
Parfois Instagram, c'est gratos, c'est comme ça, c'est distribution.
Ils sont chauds aujourd'hui, ils sont chauds.
Parfois Instagram est une calamité.
Oui, parce que des gens photographient des endroits superbes, hein, genre le Colorado ou l'Allier, hein, ça donne envie d'un coup à des millions d'autres d'y aller à leur tour, et en un quart d'heure, le lieu est dévasté, parce qu'avec les filtres, les mecs peuvent même vous donner envie de vous balader à l'air du hérisson clamsé sur la 13. C'est fou.
Les filtres, les fameux. Très bien. Sans fil, Tanguy Pastureau, ça sera après les infos. Bande originale, soyez les bienvenus, soyez les rejoignés avec Léa Cadon, Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Tanguy Pastureau, Fred Siglis, Guillaume Moniz et notre invité Pio Marmaille. Pour parler de Mais vous êtes fous, ce film au cinéma avec Céline Salette, une histoire d'amour, une histoire de famille aussi, parce que au-delà de l'histoire d'amour, de savoir si cet amour va sortir gagnant du chamboulement, de l'arrivée, de la découverte de la drogue, de cette addiction et de tous les problèmes et des incidences que cela va avoir, il y a une famille, il y a des enfants, et peut-être d'ailleurs que l'histoire ne serait pas du tout la même s'il n'y avait pas les enfants, c'est juste une histoire de couple, parce que est-ce que ça vaut la peine de tout détruire comme ça en deux secondes? Est-ce que la confiance qui est partie, est-ce que la mise en danger des enfants, puisque c'est le point de départ de l'intrigue, va changer ou pas le regard de la maman dans son histoire d'amour?
Question extrêmement longue, mais c'est vrai que...
Vous en tirez bien, hein.
C'est la signature maison.
On a vu
mais c'est...
C'est le plat signature, effectivement.
Mais je crois que c'est la première fois que quelqu'un l'assume totalement.
J'attends une réponse.
Elle sera très brève.
Oui.
Non, mais c'est vrai que ça fait partie d'un c'est un élément assez, assez fort quand même dans le film. C'est vrai que quand on constate dans l'analyse des cheveux des mômes qu'il y a de la cocaïne partout depuis des années, évidemment que ça rentre en compte. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire que, je reviendrai sur la morale encore une fois, mais il y a un truc aussi du pardon de la part du personnage de Céline Salette. Il y a un truc sur le aussi de l'addiction amoureuse, c'est ça aussi qui s'interroge, c'est-à-dire à quel moment on décide de passer un peu, enfin de passer au-delà de ce genre d'événement, quoi.
Tous les deux drogués, lui par la cocaïne et elle par son mari.
Ouais, il y a une forme d'addiction.
Un
d'ailleurs,
petit peu, c'est possible.
C'est hyper bien filmé par Audrey Diwan de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est le côté on prend la drogue en cachette comme on voit l'autre en cachette, et tout d'un coup on a une sorte de sentiment de vie supérieure, ou en tout cas de vie qui prend une dimension encore plus grande par l'amour, par la drogue. Je trouve que elle dévoile très très bien ces deux aspects là en parallèle. Votre personnage est un drogué dans sa manière à elle aussi. Céline Salette a une forme d'addiction, donc elle n'est pas plus d'un point de vue de la morale, elle n'est pas forcément plus à sauver que l'autre, je trouve. Il y a quelque chose comme ça.
Oui, et c'est marrant parce que c'était important aussi, je pense, pour Céline de trouver un endroit aussi de d'investissement à la hauteur du personnage de Roman, quoi. C'est-à-dire c'est assez troublant quoi, de se dire, oh, tiens, je m'abandonne à mon compagnon à un point que je passe ce type de... Je peux passer ce type d'événement, ou pas d'ailleurs. Mais ce sont des situations extrêmes, tellement délicates et tellement rares que... Enfin, moi, ça m'interroge beaucoup, en fait. Même si j'arrête pas de dire, je n'ai aucun jugement sur quoi que ce soit, quoi qu'il arrive, je me dis quand même, putain, ça m'arrivait.
On peut pas rester indifférent, c'est ça.
Oui, c'est ça. C'est qu'il y a quand même un truc assez... Fin de la réponse.
Vous me faites signe. À la fin de la phrase, vous me faites signe. Mais vous êtes fous. Céline Salette et Pio Marmaille tiennent l'affiche de ce film d'Audrey Diwan qui sortira ce mercredi. Voici Tanguy Passureau. Tanguy, donc, l'application Instagram est l'application de tous les succès.
Oui, Instagram, c'est cette appli sur laquelle avant on mettait de temps en temps une photo de son chat. Bon, là, j'y arrivais à peu près. Et sur laquelle maintenant on envoie des films avec de la musique, la météo de son bled. Certains humoristes écrivent même swiper pour réserver. On promène son doigt vers le haut et hop, on peut acheter des billets pour leur spectacle. Alors que moi, qui vis dans le passé, je suis plus ringard qu'un Rubik's Cube manipulé par Robert Rue. Quand on me dit comment je fais pour réserver pour toi, je réponds, je sais pas, va à la Fnac. On me dit là quoi? Je réponds la Fnac, là où il y a des disques. On me dit des quoi? Je réponds non, rien. Et à la fin, dans ma salle, bah, y a que des vieux. Hein, ce qui est très bien, parce que la moitié ont des pertes de mémoire, ça me permet de revenir 15 fois par an dans certaines villes avec le même spectacle. Un peu comme ici, puisque personne n'a noté, mais cette blague, je l'avais déjà faite le 14 septembre 2017, le 8 février 2018, le 24 juin 2018, le 12 novembre dernier, et là. Hein, c'est l'avantage de travailler sur une radio où les gens sont vieillissants. Hein, chez Skyrock, ils sont obligés d'écrire tous les jours. Et une fois que vous avez demandé au groupe PNL, ça va les frérots, bien ou bien, et qu'ils vous ont répondu, ouais, ça roule justement, t'as pas des feuilles, bah, vous êtes un peu sec pour la seconde interview. Bref, Instagram c'est sympa mais ça ne sert à rien. On voit juste des gens banals tentant de nous faire croire dans un désespoir total que leur vie est top. Sur Instagram, tout le monde sourit. Même Michel Houellebecq, vous lui ouvrez un compte, 15 minutes plus tard, il monte toutes ses dents. Puis dès la deuxième photo, roule du boule dans sa chambre sur du reggaeton en hurlant « Je suis les nouvelles Nicki Minaj ». Et certaines personnes, moins égocentrées que les autres, photographient des coins du monde. Mais là c'est pire parce qu'elles font avec la Pologne ce que votre petite nièce Cindy, 12 ans, fait avec le filtre Arlette Chabot quand elle a envie de paraître plus âgée afin de pécho des cums ardents. Elle modifie les photos. Du coup, vous voyez une déchetterie en Moldavie avec 15 fils dessus. Vous vous dites, c'est là que j'ai envie de passer mes RTT. Avant de crier à votre conjoint, bébé, j'ai trouvé un vol aller pour la Moldavie. Il n'y a pas de retour parce qu'en général, l'avion s'écrase à 4,99€. Yes, comme on dit en Moldave. Et l'être humain, globalement, aime quelque chose après avoir constaté que les autres l'aiment aussi. A réellement apprécié Game of Thrones, ils sont 4. Hein, je suis désolé, mais des histoires d'inceste et de loups, vous allez dans les Vosges, vous lisez le journal local, bon, vous avez la même chose. Mais comme tout le monde dit que Game of Thrones c'est génial, bah on aime aussi, ça fait un sujet de conversation au boulot, à part dans les locaux de Public Sénat où pour la pause café ils discutent des européennes. Résultat, certains lieux dont la photo a bien marché sur Instagram se retrouvent envahis de touristes qui viennent pour photographier l'endroit avec eux au premier plan. Ce qui gâche tout puisque la nature est plus belle que nous. Jamais personne ne ressemblera à l'aiguille creuse d'Étretat ou alors quelqu'un qui s'est beaucoup trop gratté quand il avait la varicelle et maintenant a un trou au milieu.
Bon, c'est l'exemple d'une commune du Var qui s'appelle Nance-les-Pins, qui est carrément prise d'assaut.
Ah oui, parce que là-bas, il y a des sources. Alors, c'est l'Éden, des eaux turquoises dans un sous-bois. On a envie de se mettre nu et de rouler dans le lichen. Yes. Mais si je dis à la radio qu'il y a des sources à Nance-les-Pins, l'auditeur d'Inter s'en fiche. Il continue à éplucher le programme de Benoît Hamon en se disant c'est de cet homme dont la France a besoin. Seulement, Instagram déclenche des envies de voir en vrai ce qui est en photo. Et le village qui recevait 40 touristes par jour en moyenne, là, en a 1000 qui, selon la mer, ont jeté des détritus partout. Maintenant, les sources sont visibles, mais sous une couche de 16 cm d'emballage de Kit Kat. Pire, en Californie, cet état qui nous mène une guerre atroce, puisqu'il nous a déjà refilé Pamela Anderson et les punks en short. Il y a eu dans un parc naturel une floraison de coquelicots. Hein, c'est comme le visage d'un ado, mais en fleurs. Quelqu'un a pris une photo, paf, en un week-end, il y a eu 100 000 visiteurs qui se sont pris eux-mêmes allongés dans les coquelicots. Quelques heures plus tard, tout était ravagé. Les Instagrammeurs, c'est comme les nuages de cricket, ça vous défonce un lieu en 15 minutes. En France, il y a des viticulteurs qui voient leur vigne saccagée parce qu'elles ont un fort potentiel Instagram. De partout, les mecs déboulent pour se prendre dedans. Et si une influenceuse Instagram se prend en photo à la sortie de Radio France avec Daniel Morin, mais dans 3 jours, le monde entier... Hey
reste.
Dans 3 jours, le monde entier s'accrochera à sa barbe en criant « Purée, c'est vrai qu'elle est douce !» Je pensais que c'était le filtre poil soif qui faisait ça. En plus, elle sent le tabac, c'est tellement Frenchy. Encore pire, dans certains pays, à cause d'Instagram, les gens vous collent des petits singes sur les épaules. veulent enchaîner les singes, hein, juste pour faire une photo. Et les mecs sont tellement pauvres que si vous demandez à ce que ce soit leur papy qui vous grimpe sur le dos, le vieux le fait aussi, en pensant dire que je pourrais être au spectacle de Pastureau. Mais la colonisation existe toujours, on appelle ça le tourisme de masse. Et tout ça pourquoi ? Deux, trois likes de gens dont on n'a rien à faire. Qui a besoin du regard de l'autre ? On est mieux seul. Regardez Yannick Jadot, d'Europe Écologie et Verts, il est seul, il survit. Donc non, ce n'est pas, n'y allez pas, c'est nul, les gens sont désagréables, ça sent très mauvais. Et les sources d'eau, pitié, qui a envie d'eau au printemps ? Ce qu'on veut, c'est du rosé pamplemousse. Voilà, j'aurais fait ce que je peux pour cette commune sinistrée. Allez ailleurs, hein, au PS par exemple, c'est très beau et il n'y a personne. Alors bon courage à Nance-les-Pins et à la nature.
Merci, Tony Passot.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Mais vous êtes fous, le film qui sort mercredi. Pio Marmaille et Céline Salette à l'affiche de ce film, Mais vous êtes fous. Est-ce que vous savez pourquoi elle a pris ce titre, Mais vous êtes fous?
Alors oui, plus ou moins, je pense que c'est parti d'une... En fait,
une blague?
Pas vraiment, mais en fait, elle a demandé à Gilles Lelouch, oui. Je le cite, oui. Camarade, oui. Des noms de chansons de rap des années 80, oui. et lui a envoyé, je crois... 5 titres un peu hyper pointus, de trucs que personne ne connaissait sauf lui. Et à la fin, il y avait écrit « Mais vous êtes fous ».
Hyper pointu. Mais vous êtes fous, c'est pas hyper pointu.
Et à la fin, il y avait « Mais vous êtes fous ».
Ah coup, d'accord, c'était une vanne.
Et du coup, elle prend « Mais vous êtes fous ». Et 3 semaines après, elle dit « Putain, super ».
Écoute, donc c'est le titre qui ouais. Plus que la musique, c'est le titre. Alors, le côté « Mais vous êtes fous », c'est-à-dire aussi bien l'incrédulité qu'il peut y avoir en disant cette phrase que justement la dangerosité de l'inconscience du preneur de...
Je pense à la fois, ouais. Mais et puis il y a un truc aussi sur la folie de cette histoire en elle-même, ça paraît assez simple.
Histoire ouais. Vraie, je le rappelle, ouais.
Mais c'est pas évident aussi de trouver un titre.
Histoire vraie.
Il y avait le sachet blanc d'Ayam, mais c'était peut-être un petit peu...
peut-être un peu...
Laisse pas très...
La gestion était plus qu'évidente.
C'était plus pour Logan. L'histoire donc de ce père de famille où on peut se dire il a tout pour être heureux, il a le boulot, il a l'amour, il a les enfants,
il a la
condition sociale, il a tout pour être heureux, sauf qu'il n'a pas la santé. La santé, il se l'abîme en prenant de la drogue, il met en danger ses enfants et il détruit son couple et ce cadre familial avec cette rupture de confiance qui va donner d'ailleurs cette espèce de suspense où lui va essayer d'argumenter tout le long du film et de prouver avec un expert d'ailleurs qu'il n'a pas voulu faire de mal à ses enfants. C'est la seule condition pour laquelle il peut échapper à la prison et puis pendant une sacrée durée, j'ai l'impression, parce que homicide volontaire, ce sont des années.
C'est pas homicide parce qu'il l'a pas tué, mais...
Non, mais c'est tentative d'homicide. Voilà.
Ouais, c'était comme
mise en danger de la vie.
La machine judiciaire, une fois qu'elle se met en place, c'est quand même un truc qui est impressionnant.
Et puis on lui retire la garde de ses enfants et puis son couple part en vrille. Et là-dessus, il y a la reconquête, le travail autour de la confiance dans le couple. Et il y a des scènes sans aucun dialogue, fait uniquement de regard entre vous et Céline Salette dans le comportement, où même nous, on est baladés. On ne sait pas qui ment à qui, est-ce qu'il y a ou pas mensonge. C'est extrêmement tendu jusqu'à la fin du film.
Mais je crois que les silences dont vous parlez, c'était un truc qui est pas évident en fait à gérer sur un film ou sur une pièce ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que très souvent on se dit on n'est pas obligé de jouer tel texte et on va laisser parler le temps ou je ne sais quoi sur un plateau dans un échange. Et en fait c'est pas évident à nourrir. Enfin je trouve que c'est aussi délicat qu'une langue comme par exemple sur En Liberté. C'est-à-dire que c'est comment faire en sorte que ces silences-là, ils soient un peu habités, sans pour autant tomber dans les poncifs de je regarde un peu au loin et il va se passer un truc. Ouais. C'est pas évident à faire vivre, quoi. Ça demande, enfin, en tout cas, c'est la première fois que je travaille comme ça. Moi.
Le jeu d'acteur de faire passer des sentiments et que l'on entende ce qui se passe dans sa tête sans qu'il le dise, quoi. Ouais,
et ça demande peut-être de l'habileté, je pense, en termes de mise en scène et même dans le travail.
Non, c'est le jeu d'acteur, vraiment.
Merci Nagai. Ouais,
je parlais de Céline Salette. et avec vous aussi. Service. Et Pio Marmaille, donc, à l'affiche de Mais vous êtes fous, qu'on vous encourage à voir. Voici Frédéric Sigrist, c'est le dépôt de bilan.
Alors, vous le savez sûrement, Nagui, la semaine dernière, j'ai animé une nuit Game of Thrones sur France Inter.
Et c'était super bien.
Ouais. T'es resté debout?
Couché, mais c'était super bien.
Mais c'est vrai que c'était super bien quand on l'a pas écouté.
T'as assuré, et je vais même te dire, la direction, t'as trouvé très bien aussi.
Oh là 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 là. Mais de RMC, j'ai donné de mon corps. Hein. Alors, et à cette occasion, sur les réseaux sociaux, on a subi les commentaires de nombreux trolls. Alors, je rappelle à tout le monde ce qu'est un troll, c'est Daniel Morin qui aurait appris à tweeter. Alors, loin de moi l'idée... Loin de moi l'idée de stigmatiser cette communauté qui a le mérite d'exprimer ses idées alors que... voilà, c'est ça, ça fonctionne exactement pareil. Donc, loin de moi l'idée de stigmatiser cette communauté qui a le mérite d'exprimer ses idées alors qu'elle n'en a pas forcément les moyens grammaticaux. Mais ce matin, j'ai voulu rencontrer l'homme derrière le troll. Et c'est pourquoi j'ai invité Dark Goldorak 57 de Saint-Avold, en Moselle.
Ah ouais.
Bonjour Dark Goldorak 57.
Appelez-moi Étienne.
Très bien, Étienne. Alors, je vous présente Nagui.
Chanté. Je le déteste. Non, mais on le voit partout, avec ses jeux à la con, là. N'oubliez pas les paroles, taratata, où on aimerait bien qu'ils oublient les paroles. Et tout ça avec l'argent public. En plus, il est vegan. Faut pas manger des animaux. C'est quoi ce pays? On n'a pas le droit de fumer de l'herbe, mais par contre, on a le droit de la manger, je te jure. Merci de m'inviter, ça fait plaisir.
Alors, Étienne, vous avez commencé à troller à quel âge?
Ça m'est venu sur le tard. Je crois que c'est à la mort de sœur Emmanuel. Oh, quand j'ai vu tous ces cons là qui pleuraient pour une vieille meuf qui, à ce qui paraît, aimait bien se toucher en plus, alors que bon, personne la connaissait, tandis qu'à l'autre bout du monde, t'as des enfants palestiniens qui crèvent et tout le monde s'en fout.
Ah, vous êtes engagé pour la cause palestinienne, vous faites partie d'une ONG?
Ça va pas, non? Les ONG, ces colons blancs qui vont dans les pays du tiers-monde pour se donner bonne conscience et refiler des vaccins qui donnent le sida? Non, merci.
Ah non, mais parce que je dis ça, comme vous parliez de la Palestine, je pensais que vous y étiez déjà allé.
Bah non, il est con lui. J'ai peur en avion, qu'est-ce que j'irai foutre là-bas?
Ah, j'ai du mal à vous suivre.
Ah bah m'étonne pas que vous ayez du mal, hein. Je les écoute vos chroniques, hein, tous les jours, je déteste. Ah, mais je les écoute pour être sûr que j'aime pas. Non mais franchement, tu crois qu'on te voit pas avec tes blagues sur l'alcoolisme de Leïla, là, pour pallier ton manque d'inspiration? Ou l'autre, la Morin, qui des fois nous recycle la BO de la Puberta? Ou le Belge, qui une fois sur deux te disserte soit sur un article de Science et Vie, soit sur sa pub? Non mais franchement, rendez-nous des proches, au secours.
Ah, des proches, vous aimiez, c'était votre style d'humour.
Ah non, pas du tout, il était pédant. Mais je l'aime bien parce qu'on le voit plus. Toi, je te trouverai du talent quand tu fermeras ta gueule.
Mais c'est méchant ce que vous dites.
Non, c'est ma liberté d'expression.
Bon, essayons d'avancer. Dans un tweet daté du 14 avril à 2h13 du matin, vous reprochez à France Inter, et donc à moi, parce que je pense que le fils de pute, ça m'était adressé.
Tout à fait. Je pensais pas que t'aurais percuté, mais c'est bien.
Super. Donc, vous me reprochiez de faire avec de l'argent public la publicité d'une série qui passe sur une chaîne privée.
Ouais, évidemment. Tu crois que ça sert ça? C'est ça, nos impôts? Alors qu'il y a des mecs qui dorment dehors?
Ah, c'est donc ça qui vous tient à cœur. Cette cause à défendre, c'est les sans-abri.
Bah, rien à voir, de quoi il parle lui? T'es con ou quoi? Je suis en train de te dire que j'aime pas ce que tu fais, que c'est de la merde, ok? Hein, qu'est-ce que tu viens à mourir avec tes clochards d'un coup?
Bah c'est juste que j'essaie de trouver une cohérence dans tout ce que vous dites. Notre-Dame par exemple, vous avez bien été ému, non?
Alors là, sûrement pas. Oh mais pas chialer sur une cathédrale, hein. Et la laïcité alors? Donc les prières de rue, t'as pas le droit quand t'es musulman, mais là t'as une église qui flambe, t'as l'Opus Dei qui peut privatiser l'avenue de Rivoli?
Ok, donc en fait, pour résumer, tout vous fait chier.
Voilà. Suffit que tu parles 2 minutes avec moi, tu deviens moins con.
Mais pour qu'on soit clair, quand vous vous réveillez le matin, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait plaisir?
Oh, c'est compliqué.
Il est où le bonheur? Il est où?
Je peux... Ouais, voilà, ça faut éviter. Attends. Ou alors lui, tu l'envoies à Notre-Dame au moment où...
Non,
je suis tranquille, j'ai ce que je veux.
Tais-toi.
Non mais c'est compliqué, moi ce qui me fait plaisir, c'est que je peux pas vraiment répondre comme ça, à brûle pour point. Non, parce que moi ce qui me fait vibrer, c'est troller. C'est ça qui est en moi, c'est croiser des jeunes parents dans un parc, m'arrêter et leur dire que leur gosse est très laid, puis partir. C'est ça qui me porte, c'est ça que j'ai là. Le truc, c'est que j'en vis pas encore. En fait, je me rends compte que j'aimerais bien faire comme toi, être payé pour dire des conneries.
Ah très bien, bah écoutez, le message est passé, ça sert aussi à ça le service public, donner la parole à des gens comme vous. Par contre, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec votre téléphone?
Oh bah rien, je suis en train de tweeter que c'était une chronique de merde.
Merci.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Mais vous êtes fous au cinéma ce mercredi avec Céline Salette, Pio Marmaille et également Carole Franck, Jean-Marie Willing, Lola Rosa Lavielle, Kerenan Zachtelbach, j'espère que je prononce bien, Maxence Tual, Valérie Donzelli, Jeanne Rosa, Anne Loiret, Laurent Bateau, j'adore, ouais. Tellement bon ce comédien, Laurent Bateau, Neila Arzoun, Lauriane Loisel, Bruno Guéry, Céline Bouillot, Victor Pontecorvo, Ossine Choutry, Chantal Garrigue, Jérôme Huguet, Franck Pell, Jacques Le Pesqueur, Xavier Filol et Clément Rouault. Comme ça, la distribution de ce nouveau et premier film d'Audrey Diwan sera servie. Vous êtes en ce moment en tournage Alors qu'un film sort mercredi, vous tournez un autre film en ce moment, c'est ça?
Oui.
Comment je suis devenu super?
Comment je suis devenu super-héros, ouais. Un film de super-héros, tout simplement, c'est dans le titre.
Avec Benoît Poulvorne, Leila Bekhti.
Et oui, Vimé Laponce, Swan Harlow. Très étrange, parce que jouer un super-héros qui fait léviter les objets quand il ne se passe que dalle, en vrai, c'est très abstrait. J'ai la capacité, donc.
Il y a des effets spéciaux, mais vous êtes sur fond vert, c'est quoi?
Non, alors on me met des points sur la main et en fait on me met un
comme des avec... comme des patchs pour qu'un ordinateur repère
exactement,
vos mouvements
pour repérer le truc et après je j'imagine que je jette un objet de manière extrêmement violente et rapide sur un ennemi.
C'est mime ou quoi en fait là?
Oui, et ça demande il faut y croire et surtout faire gaffe au strabisme, c'est-à-dire qu'en fait quand l'objet il est devant moi. Donc bref, fin de l'histoire. En tous les cas,
c'est difficile.
C'est difficile et en même temps c'est assez excitant parce que bon c'est...
Mais quelle est l'histoire alors? C'est Monsieur Tout le Monde qui devient super-héros.
Ouais, c'est une dystopie. En fait, c'est une dystopie. Ça se passe dans un monde où effectivement il y a des gens qui ont les super-pouvoirs qui sont un peu tombés en désuétude. Enfin, il y a pas de guild genre de d'Avengers. Il y a pas de super méchants et de super gentils quoi. Mais c'est un peu un truc qui existe. Et en revanche, il y a quand même un très méchant Swan Harlow qui décide de ponctionner le sang d'individus pour leur choper leur pouvoir et le vendre à des individus qui vont faire des braquages.
Si vous aviez un super pouvoir dans la vraie vie, vous aimeriez avoir lequel?
Soit super goûti viande, c'est-à-dire je me transforme moi-même en viande et je me mange moi-même comme une espèce de cycle infernal.
Belle sortie. C'est le comble de l'onanisme. Ok, d'accord.
Ou alors, non, ouais. Je pense que un truc de ça. Moi, j'aimerais voler un peu.
Ah, je sais pas. Il y a plein de gens qui disent être invisible aussi.
Ah, mais ça, c'est un truc. Mais
c'est vilain.
Mais c'est un truc plutôt de d'Instagrammeur, ça. Enfin, on en parlait tout à l'heure avec Tanguy.
Oui.
Il y a un peu de ça. Enfin, j'ai pas trop. Du coup, tu te fous. Enfin, moi, je m'en fous de. J'aime bien mater. Moi, je suis amateur. Hein. Mais être individu, invisible, ça me. Je sais pas si c'est un truc.
Puis quelle tristesse pour un acteur quand même. En solitude. Vous serez également dans le prochain film de Bruno Merle qui s'appelle Fille unique.
Ouais.
Vous y faites quel personnage?
Une sorte de petit gitan. Je n'ai pas vu le film encore. Je ne sais vous dire, mais c'est une sorte de famille un peu.
Il n'est pas tourné encore.
Il est fini, mais j'ai pas fait la post-synchro, je n'ai rien vu.
Ah, vous ne savez pas ce que vous avez joué, très bien. Et je me promets d'être sage.
Avec Léa Drucker, ouais. Oui. Ça va être quelque chose, ouais. Là, je vois un metteur en scène hystérique qui tombe en dépression et qui devient gardien de musée et qui décide de voler des objets avec une femme kleptomane. Voilà, c'est le pitch.
Ah oui, ça nous semble. Ouais.
Ça ressemble à mais du Salvadori
assez,
comme ça.
Assez, ouais. Et puis,
ça ressemble à du Salvadori comme ça.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Mais ouais, ça va être assez. Je sais pas trop. Enfin, je sais pas. J'ai encore rien vu.
Et quel? Oui, j'ai bien vu que vous voyez rien en ce moment. Et l'envie de, je sais pas, de théâtre, de projet, d'écriture, peut-être de réaliser votre
propre
film.
Non, non, mais ça c'est un.
C'est pas votre truc.
Mon travail, c'est être acteur. Moi, je fais ce qu'on me dit.
Quand vous voulez rien écrire.
Non, pas encore. D'accord. On verra plus tard.
Quand vous lisez une histoire, vous regardez aussi bien avec distance quelle est cette histoire, est-ce qu'elle m'intéresserait en tant que spectateur ou en tant que comédien, qu'est-ce que j'ai à jouer dans cette histoire et qu'est-ce qui m'intéresse
J'essaie toujours d'avoir un truc un peu global, quoi, comme si je bossais sur BFM TV et que je.
Oula.
Je présente. Non mais un truc un peu global parce que si je pense à ma partition, ça va être un peu naze, quoi. Enfin, j'ai l'impression que ça va pas fonctionner. C'est toujours un truc un peu. Je pense à l'objet du film, quoi. Même quand on fait une scène, il faut jamais jouer la scène en soi. Il faut jouer le film à chaque fois. Bon, c'est un peu de la branlette que j'ai, mais c'est un peu vrai.
Et le théâtre
2020. Ouais, je vais retravailler un peu. C'est normal parce que en fait, je sais qu'à un moment le trop-plein de cinéma il arrive très vite et il faut retravailler au théâtre. Quand j'avais fait Roberto Zucco il y a 3 ans, ça m'avait vraiment rechargé les batteries pour un temps assez fort.
Et mais sur là, quel besoin. Projet êtes-vous pour 2020
Je sais pas.
Parce que 2020 pour les saisons théâtrales, c'est en ce moment que ça se décide. Hein.
Alors comme je viens du futur, ça va être 2020 pour moi et c'est un truc qui est très proche. Non, c'est un, je pense qu'on va faire une pièce plus légère que Roberto Zucco, enfin plus légère, avec moins de personnes. Et ce sera en tout cas avec Richard Brunel. Le metteur en scène à qui j'avais fait, au Bazooka.
D'accord.
Il y a un peu de suspense.
Et puis après, il y a le César qui arrive aussi dans cette période-là.
Selon la voyante.
20-21.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh, bien sûr. Désolé pour nos auditeurs, mais ceux de qualité qui m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient trouvé notre rubrique goûti viande et prout de compétition un petit peu courte. Alors, c'est pas faux. D'ailleurs, on va la reprendre dès lundi avec Jean Telet. Désolé pour Pio Marmaille qui pensait avoir tout tenté côté malbouffe et suicide alimentaire. Eh ben, non, camarade. J'ai le challenge ultime. Je vous invite à la cantoche de Radio France. C'est moi qui paye. Et désolé, enfin, on va régler les comptes pour Tom Villa, Guillermo Guiz, Fred Segris et Tanguy Pastureau. C'est fumier qui osait insulter, malmener, tambouriner cette institution, le Notre-Dame du rire, à savoir moi. Vous m'avez blasphémé, bande d'infidèles. Alors j'espère que ce week-end vous serez crucifiés, ou alors je vous souhaite à tous les quatre une crise d'hémorroïdes très très douloureuse.
Cette émission m'a tellement fatigué que je vais me barrer en vacances et dès lundi vous retrouverez en effet Jean Telet, invité de Leïla, Kado Bodadi, de Daniel Morin et de toute la bande. Merci Pio Marmaille.
Merci beaucoup
d'avoir trouvé le temps entre trois films que vous tournez en ce moment de venir à ce micro.
Venir du futur,
devenir du futur.
C'est beaucoup de boulot.
Retournez-y vite. Céline Salette, Pio Marmaille à l'affiche de Mais vous êtes fous. C'est au cinéma mercredi prochain le 24 avril. Bonne journée à suivre les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Merci.
Merci Nagui, bonnes vacances et à la bande pour le reste à lundi.